France Culture. Les pieds sur terre, Karine Leloette.
La toute première cassette que notre collaboratrice Delphine Dilly a eue en sa possession était un album de Jean-Jacques Goldman. Elle était alors petite et un des titres l'intriguait particulièrement. La chanson s'appelait « Elle a fait un bébé toute seule ». Et elle ne voyait pas bien ce que ça voulait dire. Est-ce que le papa du bébé était parti ? Est-ce que la femme de la chanson avait des super pouvoirs ? Mais si Jean-Jacques Goldman le chantait, c'est que ça devait être vrai. Après tout, c'était un adulte et ses titres passaient à la radio. Depuis, évidemment, Delphine a suivi, comme nous, comme vous, les avancées de la science et des lois. Et notamment celle du 2 août 2021, relative à la bioéthique, qui autorise les femmes françaises de 29 à 37 ans à prélever et congeler leurs ovocytes, gratuitement et sans raison médicale, quel que soit leur statut marital. Une loi, un droit, qui entraîne dans son sillage tout un tas de questions. Qui sont ces femmes qui congèlent leurs œufs et pourquoi ? Et qu'est-ce que cette pratique dit de notre société ? De la liberté de procréer ou de ne pas procréer ? De l'égalité des sexes ? Dans son essai « Le corps des femmes », la philosophe Camille Froidevaux-Mettery explique ainsi qu'autoriser la vitrification ovocytaire, c'est accompagner le processus d'homogénéisation des conditions féminines et masculines. C'est permettre aux femmes de devenir enfin des hommes comme les autres. C'est un enjeu politique. Tout un tas de questions, donc, qu'aborde aujourd'hui Delphine Dilly à travers le témoignage de deux femmes qui ont choisi de congeler leurs œufs, dont l'une, Adélaïde, l'a fait avant l'entrée en vigueur de la loi de 2021.
Je m'appelle Adélaïde, je vis à Paris, j'ai 39 ans. J'ai grandi dans une famille où les valeurs de la famille sont très fortes. Moi, j'ai un papa italien, j'ai passé beaucoup de temps avec mes cousins et ma fratrie étant jeune. Je pense que déjà à 10 ans, je me projetais mariée, le beau cliché, avec plusieurs enfants. Donc cette envie de maternité, elle a toujours été en moi depuis très longtemps. Dès mes 20 ans, je me suis dit que j'avais envie d'être mère, que j'avais envie d'avoir un bébé, que j'avais envie d'avoir un super mec pour faire ce bébé. Moi, j'ai été bercée au film de Disney. C'est bien, j'étais bien dans le déni par rapport à la réalité de la vie. Et puis, le temps passe très vite, les années s'enchaînent. On se rend compte qu'on grandit, voire qu'on commence à vieillir. Et que les choses ne se passent pas comme prévu, c'est-à-dire que le prince charmant n'est pas arrivé en bas de chez moi avec son carrosse. J'ai eu l'impression que dans mon entourage, il y avait deux équipes qui s'étaient construites, c'est-à-dire la première où, effectivement, moi j'ai des amis qui se sont engagés, parfois qui se sont mariés et qui ont fait des enfants jeunes. Et on sent que il y a ce banc de célibataires qui se construit aussi de l'autre côté et dont je faisais partie. En fait, on enchaîne les déceptions, on rencontre des hommes qui correspondent pas forcément, qui nous brisent le cœur. Moi, je trouve que c'est vraiment très chaotique, ce truc-là. Et donc, on sent en quelque sorte s'éloigner ce projet rêvé qu'on a toujours porté. En tout cas, moi, depuis très longtemps, j'avais une forme d'appréhension qui se nourrissait au fil des années en me disant il se passe beaucoup de choses chez les autres, pourquoi pas moi ? C'est compliqué, ça peut devenir compliqué rapidement. Et en fait, on prend aussi conscience de cette fameuse horloge qui est vraiment un sujet terrible pour les femmes et qui fait beaucoup réfléchir, au final, moi, qui m'a fait réfléchir assez jeune. Donc en fait, le point de départ de mon projet congélation, ça a été mon 34e anniversaire. J'ai eu beaucoup de chance parce que ma première congélation était quasiment 2 ans avant que la loi PMA passe en France. Et en fait, moi, j'avais une amie qui avait fait des FIV pour avoir ses enfants. Donc assez naturellement, je me suis rapprochée d'elle pour récupérer le contact du fameux gynéco avec qui j'ai pris rendez-vous dans l'espoir de monter le projet avec lui. Je me retrouve avec une espèce de nip-tuck de la FIV. Gros cabinet au pied de la tour Eiffel, des œuvres d'art accrochées au mur, des Russes, des Émirats dans la salle. Et là, il me reçoit et il me rédige une tonnes d'ordonnances pour des sanguins, pour des examens, pour monter le dossier. Et en gros, le mec est quand même un peu expéditif, au-delà de prendre 200 balles la minute, j'exagère à peine. Enfin, il n'y avait pas grand-chose qui me ressemblait, et j'étais un peu minée par ce premier échange, quoi. Quelques mois plus tard, je vais voir ma gynéco, je la déprive de ce truc-là, et elle me recommande finalement un autre pont sur la place de Paris. Je vais rencontrer Grand Manitou numéro 2, roi des ovocytes, et je me retrouve pareil dans les beaux quartiers, rive gauche. Et donc ce mec-là, en gros, me jette le dossier à la face en me disant « Ah bah, y a pas ce qu'il faut, recommencer, revenez plus tard ». En parallèle, je me suis quand même rendu compte que ce projet-là, il comptait beaucoup pour moi, que le temps passait très vite et que, bah, au final, ça faisait déjà un an qu'on en parlait et que j'avais toujours pas avancé. Donc, franchement, bah, j'étais pas bien, quoi. Je me suis dit, ça va pas le faire. Donc, c'est un parcours du combattant dès le début. Donc au final, j'ai eu une discussion assez déterminante avec ma gynécologue qui a fini par me parler de l'hôpital Béclair qui est basé à Clamart, donc qui est un hôpital public dirigé par le professeur Michael Grimbert. Donc c'était parti pour un tour sur Doctolib. J'identifie effectivement ce professeur, je prends rendez-vous. Je pense qu'il y avait 9 mois d'attente pour avoir le rendez-vous. Et là, j'entre dans le bureau de ce fameux professeur. Franchement, j'ai presque eu l'impression de passer le bac. J'avais la pression. J'avais vraiment peur que ça se passe pas bien, quoi. Et il regarde mon dossier, il me pose tout un tas de questions et il me parle du protocole. Donc je l'écoute et je suis un peu interloquée. Et en fait, je l'arrête et je lui dis « Mais attendez, ça veut dire que vous allez le faire ?» Et là, il me regarde et il me dit « Bah oui, je vais vous le faire. » Et en fait, je me dis, ben, ça paraît trop simple, quoi. J'avais vécu tellement d'échecs, j'avais passé tellement de temps dans les labos à faire des examens sanguins, etc., que je me suis dit, waouh, c'est dingue, ça y est, j'ai trouvé, quoi. Comme j'ai de l'endométriose, eh ben, Clamart m'a prise en charge assez rapidement. On est suivi quotidiennement les premiers jours de démarrage du traitement pour cette congélation, pour en fait suivre la croissance des follicules et comment ils réagissent par rapport au traitement. Moi, je me souviens très bien, sur la première congélation, j'étais programmée à 6h10. Donc en fait, tous les matins, je quittais mon appartement à 5h. J'avançais dans la nuit noire, toute seule, dans le froid, et voilà, j'allais à l'hôpital pour faire mon examen sanguin et mon échographie pelvienne, donc qui est quand même une échographie interne quotidiennement. C'est marrant, je garde en mémoire la salle d'attente de l'hôpital Béclair, où il y a toutes ces femmes qui arrivent de la nuit noire et qui arrivent sous ces néons avec leur dossier sous le bras et qui attendent leur tour, quoi. Moi, la particularité de mon parcours, c'est qu'à chaque fois que j'ai pris les médicaments, bah, j'ai un peu surréagi. Donc j'avais le ventre qui gonflait beaucoup, les seins qui gonflaient, j'avais des nausées, clairement les symptômes de la grossesse. Sans être enceinte, je me suis rendu compte aussi que bah, ça bouleversait parce que ça faisait vachement remonter mon désir de maternité. Ça me confrontait aussi à mon célibat, à ma solitude. Les piqûres, je les faisais toute seule. Et je me piquais dans les toilettes d'un de mes clients, sur un plateau de cinéma. Enfin, franchement, ça a été assez fracassant parce que, effectivement, la distance, les allers-retours très tôt le matin, le traitement qui m'a chamboulée. Et ce fameux jour, on reçoit le go par email qui dit « ça y est, les follicules font la bonne dimension, y en a tant ». Vous êtes prête pour faire la ponction. Donc, On arrive souvent dans des vêtements cosy, en pyjama, en jogging, avec un accompagnant ou pas. Hein, et puis, on attend notre tour pour passer au bloc et faire la ponction. Et c'est vrai, bon, bah, ça reste un bloc opératoire, donc c'est assez impressionnant. Il y a une équipe, il y a les grosses machines, il y a ce gros spot qui est dirigé sur le fauteuil. Bon, c'est pas très agréable, hein, les quatre fers en l'air, comme on dit, dans les étriers. Ils endorment en fait l'utérus. Donc il y a un moment un peu désagréable où en fait ils viennent piquer le col de l'utérus et pouvoir après ponctionner bah, sans que ça nous fasse mal. Et après, ils prennent une espèce de... Bah, c'est, en fait, c'est la même tige que pour les échos, sauf qu'il y a un pic au bout. Moi, je l'appelle le pic à glace. Et en fait, ils ponctionnent. Donc, c'est le pic qui traverse bah, la paroi utérine pour accéder aux ovaires et aller aspirer les follicules. Donc, je sentais vraiment le pic qui s'enfonçait et qui ponctionnait. Donc, je faisais des petits sauts sur mon fauteuil. Et en même temps, ben voilà, je voyais que ça fonctionnait, qu'il ponctionnait. Donc, et en fait, après, s'en est suivi une attente un peu pénible parce qu'on attend justement que le labo travaille et puisse confirmer le résultat. Et c'est là que bah, j'ai appris qu'en fait, il n'y en avait que 4, ce qui n'était clairement pas un bon résultat, parce qu'une ponction qui est OK, c'est 12-15. Et en fait, faire... tout ce parcours-là pour congeler 4 ovocytes, ça n'en vaut pas la peine. Donc c'est pour ça que le professeur à l'époque, il m'a encouragé à le faire une deuxième fois. Ce qui a été honnêtement, bah, j'étais complètement minée parce que je m'attendais absolument pas à faire un deuxième tour. Et donc là, je me suis un peu pris un immeuble sur la tête. Je le percevais pas comme un échec, mais pour moi, c'était une véritable épreuve qu'il fallait à nouveau confronter. Et que si vraiment j'avais envie d'aller au bout du projet, bah, il fallait que j'y retourne, quoi. Tout simplement. Donc moi, j'ai attendu 2-3 mois. Je me souviens, la première fois, c'était en 2021. Donc la deuxième fois, j'ai dû le faire en février ou mars 2022. Et là, en fait, ils ont augmenté les doses pour se mettre toutes les chances de pouvoir booster les follicules. Et là, ils ont ponctionné pour la deuxième fois. Ils en ont récupéré 14. Donc voilà, au bout de 2 ans de parcours, je reçois ce fameux papier qui dit 18 ovocytes au parking. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'il était très à la bourre, mais le prince charmant finit par arriver. Tout de suite, bah, c'est une très belle histoire, c'est évident, on est heureux, on s'installe rapidement ensemble. Moi, à l'époque, j'ai 35 ans, lui, il a 2 ans de plus. Et le sujet des enfants arrive rapidement sur la table. Évidemment, c'est un mec, donc tout de suite, ça panique un peu, mais il finit par s'y intéresser. Et en fait, ben, évidemment, on se laisse le temps de lancer ça dans notre intimité, d'essayer d'avoir ce bébé, naturellement. Et au bout de quasiment 1 an, ben, on se rend compte que ça ne marche pas. Et encore une fois, c'est rapport à mon dossier médical, etc. On a eu l'accord de lancer une FIV rapidement. Et à l'époque, la super gynéco, elle travaille depuis toujours avec un gynécologue qui fait des FIV dans le privé. Donc en fait, assez naturellement, on a décidé de la suivre. Donc ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est transférer les ovocytes soi-même. Donc on est littéralement allé à la pharmacie louer une bonbonne d'azote. Et on est parti un lundi matin avec notre voiture chercher les ovocytes à Béclair pour les rapatrier dans la clinique où j'allais subir le transfert. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déposé la bonbonne d'azote à la clinique et qu'en fait, après, donc, elle est remise entre les mains du labo qui se charge de les décongeler pour ensuite faire la rencontre. Ce parcours-là, il est ponctué de coups de téléphone du laboratoire qui nous informe au fil du process d'abord combien d'ovocytes ont été décongelés, combien ont survécu à la décongélation. Et en fait, on m'a rappelé quelques jours après la décongélation pour me dire que seulement 11 ovocytes avaient survécu à la décongélation. Et en fait, on me rappelle quelques jours plus tard pour me dire qu'ils ont réussi à faire 5 embryons sur les 11 follicules restants. Donc ça, c'est suite à la rencontre entre le spermato et l'ovocyte. On m'appelle à J+5 et on me dit il y a 2 embryons. Il y en a un, on n'est vraiment pas sûr, mais il en reste un. Donc on est quand même parti de 18 follicules pour au final arriver à un embryon. Et là, en fait, on finit par nous appeler en disant voilà, c'est prêt. Et donc nous, on a fait ça un samedi et c'était mignon, quoi. On était unis, on était amoureux. Et voilà, et en fait, ce qui est hyper difficile, c'est qu'il faut attendre 12 jours avant de faire un examen sanguin. On a attendu calmement l'échéance de l'examen sanguin. Et en fait, je me souviens très bien, c'était un lundi, j'étais au bureau, il était midi, j'ai cliqué sur le PDF et il était marqué négatif. Et en fait, là, c'est fou parce qu'on se retrouve quand même au boulot, entouré de gens, à parler de banalité. Enfin, c'est la vie, quoi. Et on se prend ce truc-là dans la gueule. On se dit, bah, ça y est, c'est fini, je suis pas enceinte, je n'ai plus d'ovocytes, je viens de passer littéralement 3 années de ma vie dans ce truc-là à me faire charcuter pour essayer d'arriver à faire ce truc-là, et je ne suis pas enceinte. Et je me retrouve comme ça devant un PDF tout claqué, à appeler un médecin qui finit par répondre, à dire, bon, bah, on recommence. Enfin ouais, c'est une sorte de déflagration qu'on se prend dans la tronche et c'est hyper compliqué, quoi. Et du coup, bah, en fait, on repart à la case départ, hein. Donc c'est une technique médicale, c'est la plus poussée en FIV. Et donc pour ça, moi, il fallait d'un côté que je subisse une stimulation ovarienne, donc la 3e en 5 ans, ce qui est quand même beaucoup, hein, parce qu'on est bien chargé en hormones, c'est très fatigant pour le corps, etc. C'est des gros dispositifs médicamenteux. On se pointe un 22 septembre pour faire le transfert d'embryon. Je m'en souviendrai toute ma vie, il faisait très beau. Il y avait une autre famille dans la salle d'attente avec déjà 2 enfants qui faisaient un transfert. Et on a fait le transfert d'embryon. Alors, j'ai pas eu beaucoup d'ovocytes, je me souviens plus exactement, mais je pense que j'en ai eu moins de 10. Et on a fait le transfert d'embryon. Et cette fois-ci, j'ai décidé de faire un test de grossesse en loose day dans mes toilettes, genre à 9 jours, et j'étais enceinte. Donc en fait, franchement, ça a été chaotique, il y a eu plein de problèmes, il y a eu... Enfin, c'est des parcours qui sont franchement complexes. Mais moi, je m'estime très chanceuse parce qu'au final, ça n'a duré que un an et quelques pour avoir mon fils, qui est aujourd'hui à 5 mois. J'ai fait tout ça et j'en suis fière et j'ai désormais ce devoir de transmission. En fait, moi j'ai des filles dans mon équipe qui sont plus jeunes, je leur parle de la congélation. Je croise des femmes qui ont envie d'avoir un enfant passé 40 ans, qui sont seules, je leur parle de la PMA, de tout ça. Et il faut libérer la parole aussi sur ces sujets-là, il faut en parler librement. C'est quelque chose auquel on a le droit et il faut défendre ce droit et il faut en parler, c'est hyper important.
Je m'appelle Justine, j'ai 34 ans. Moi, j'ai grandi dans un contexte, je crois, très classique. Donc, un père, une mère, un grand frère, avec des parents de manière très classique et traditionnelle qui se sont séparés aussi lorsque j'étais enfant, lorsque j'avais 10 ans. Et donc, du coup, je crois qu'en fait, depuis enfant, la chose qui a été le plus source de souffrance pour moi, ça a été la question de la solitude. Et de comment on se réunit et de comment on crée une famille au sens large. J'ai aussi eu une mère qui, à ce moment-là, parce qu'elle souffrait, nous rabâchait que mon père, mais comme tous les autres hommes sur la planète Terre, étaient vraiment des personnes assez détestables et en tout cas en lesquelles on ne pouvait pas avoir confiance. Et donc ça a toujours été un endroit avec lequel j'ai dû naviguer en me disant « Ok, donc il y a une attirance pour des garçons, mais elle est teintée de méfiance, il faut s'en protéger puisqu'ils vont te faire souffrir. » Donc ça, c'est je crois aussi quelque chose qui a, encore une fois, marqué beaucoup mon identité en tant que jeune femme et jeune adolescente. Et donc après, dans l'évolution, évidemment, j'ai découvert la sexualité, j'ai découvert que c'était quelque chose de plutôt sympathique, de quelque chose qui me plaisait. Il y a eu un réel intérêt pour la sexualité en tant qu'activité, enfin, comme aller boire un café avec des amis, comme aller au cinéma, comme aller faire un hammam, comme enfin, voilà, plein de choses. Je trouve que enfin, avoir un rapport sexuel, pour moi, c'est planifier une activité qui, aujourd'hui, est une activité que je trouve très sympathique. Alors, le désir d'enfant, je crois qu'il intervient avec l'âge, c'est-à-dire que arrive à un certain moment, tu as évidemment ce petit rappel que ça y est, c'est le moment pour toi aussi, apparemment, normalement, de mettre un enfant dans ton ventre. Et au fur et à mesure des années, ce désir à la fois s'amplifie et à la fois est de plus en plus soumis à l'impossibilité de le réaliser. Dans un schéma de type famille hétérosexuelle type un papa, une maman. Et au travers de lectures notamment féministes, je vais comprendre, en tout cas de mon point de vue, que il n'y a pas de lien pertinent, selon moi, entre une relation amoureuse et une famille. C'est quelque chose que je trouve absolument fantastique, de tomber amoureux et de ressentir des sentiments amoureux pour quelqu'un. C'est aussi quelque chose qui, pour moi, est marqué dans le temps. Les relations amoureuses passent, mais du coup, je peux pas créer de lien entre ce côté éphémère d'une relation amoureuse et le fait que de cette relation amoureuse éphémère naisse un enfant et un individu qui sera lié à nos vies pour toujours. En tout cas, aujourd'hui encore, j'ai pas le désir d'avoir un enfant là, tout de suite, immédiatement, voire dans les toutes prochaines années. Donc en prenant conscience de ça et en prenant conscience des impératifs liés à nos hormones et à notre système de reproduction en tant que femme, je me dis qu'en fait, il va falloir que je trouve une solution. Au moment où, en France, on explique qu'il y a cette campagne où, dans laquelle on nous explique qu'on peut avoir accès à la congélation d'ovocytes pour un tarif minime, parce que rappelons-le, il faut quand même symboliquement payer tous les ans pour congeler ses ovocytes, et avec une procédure qui est démocratisée. Et donc à ce moment-là, je me dis, ben bingo, quoi, ça va me permettre en fait de friser ça dans le temps, de congeler ce moment. Aujourd'hui, à 34 ans, cette histoire de famille, il faut l'organiser, il faut la prévoir. Et tous les ans, on se demande comment logistiquement et techniquement on va pouvoir la faire exister, quoi. Alors ce parcours, il a été un peu accéléré de mon côté du fait que lors des dernières années, j'ai relationné avec un homme qui était gynécologue obstétricien. Donc lors d'un dîner autour d'un plat de nouilles, il m'a évoqué le fait qu'il travaillait actuellement dans un service de procréation médicalement assistée et que du fait que certains rendez-vous étaient annulés très dernière minute et que c'était compliqué de les reproposer à d'autres patientes en bonne et due forme, il avait la possibilité de rendre ces rendez-vous accessibles pour des personnes de son entourage. Je prenais connaissance aussi des délais faramineux qui étaient liés et donc en fait je me suis dit, mais en fait là c'est ta chance, oui évidemment qu'il faut que tu me prennes un rendez-vous. Et donc d'un point de vue du process, donc moi ça a été le fait dans un premier temps de prendre une petite pilule tous les jours qui bloquait mes cycles et donc qui ne permettait plus à mon ovulation d'avoir lieu, pour dans un second temps passer à des injections quotidiennes pour terminer par une dernière injection qui a un nom absolument très réjouissant et qui s'appelle décapeptile. Littéralement, ça va tout décaper sur son passage et en fait, ça va prendre toute la petite équipe d'ovocytes qu'on a stimulée pendant tous ces mois-ci et ça va leur dire « Ok, let's go, c'est maintenant qu'il faut finir dans la pipette, quoi ». Et donc j'ai un souvenir quand même de ce process qui pour moi a été assez douloureux, surtout émotionnellement. Ça a beaucoup impacté mon sommeil, je dormais très mal pendant cette période-là, ça me rendait très anxieuse, aussi un petit peu déprimée. Et puis, symboliquement, il y a aussi le fait de devoir se piquer, donc insérer une seringue à l'intérieur, en l'occurrence de son ventre, qui est aussi symboliquement cet endroit lié à la procréation, au fait d'enfanter, ce lieu localisé de l'enfant, c'est l'endroit que tu vas transpercer d'une aiguille toi-même et diffuser des shots d'hormones dedans. Alors, la ponction, donc en fait, le processus est assez rapide. Vous attendez dans cette petite salle avec toutes les dames qui ont toutes leurs petites marmites d'ovocytes qu'on imagine plus ou moins prêtes. Quelqu'un vous appelle, vous arrivez. Alors, vous avez deux possibilités, le faire sous anesthésie générale ou locale. Moi, on m'avait expliqué que il était plus de tradition dans cet hôpital-là de faire des anesthésies générales, et donc je m'endors. Puis je me réveille et j'ai l'interne qui m'avait suivi jusque-là, qui fait son apparition finalement dans la chambre et me félicite pour la bonne pêche d'ovocytes. Il m'explique qu'on a prélevé 15 ovocytes et me souhaite un très bon rétablissement. La porte se ferme, l'infirmière revient, m'enlève la perfusion et me propose d'aller me rhabiller, de rentrer chez moi. Et donc moi, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je reconnais une camarade de ponction qui me demande comment ça s'est passé et qui me dit que de son côté, elle n'a pu prélever que 2 ovocytes et qu'elle va devoir vraisemblablement refaire le process. Et donc, il y a un moment comme ça qui est un peu étrange et un peu violent pour les femmes pour lesquelles ça s'est moins bien passé d'un point de vue numéraire, quoi. C'est que on se compare, quoi. Donc c'est, alors toi, t'en as combien ? Est-ce qu'en gros, t'as été une bonne mère pondeuse ou pas, quoi ? Et donc, évidemment que pour une femme, d'imaginer qu'après tout ce process qui a été déjà très intense, d'imaginer qu'il faut remettre ça dans les mois qui arrivent, c'est très difficile à encaisser psychologiquement. En ce qui me concerne, tel que je parle à 34 ans et dans ma situation amoureuse, affective et psychologique qui est la mienne, idéalement, je m'imagine dans un futur plus ou moins proche, proche non, mais je sais pas, dans quelques années, les ressortir du congélo, trouver une ou plusieurs personnes avec lesquelles j'ai décidé de créer une famille. Ce qui me donne envie, c'est le fait de former une équipe. Déjà, je trouve ça assez fascinant que lorsqu'il vous explique la manière dont c'est congelé, il vous montre ce qu'il nomme une paillette. On est sur une sorte de petit tube tout fin dans lequel tous vos ovocytes vont être stockés. Cet objet si petit, avec autant d'infos à moi dedans, comment ils vont pas le perdre ? Donc moi, j'imagine un énorme congélo, avec vraiment, voilà, je suis à côté de toutes mes sœurs de vos sites, et donc je dois l'avouer aussi, je me demande si le congélo tombe pas en panne. Et j'ai des craintes que le moment où, si un jour je les ressors, ils soient déjà passés par un process congélation-décongélation, et qu'ils soient moins fringants qu'au moment de la première congélation. What do you do in April? I open my bill in May. I sing night and day in June. I change my tune in July. Far off I fly in August away.
C'était un reportage de Delphine Dilly réalisé par Clémence Gross. Merci à Adélaïde et Justine. Sachez que Delphine Dilly signe aussi sur le même thème le documentaire « Nos œufs au congélo » qui sera diffusé très prochainement dans l'émission Infrarouge sur France 2. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Luce Mourant. Far off, I fly in August away.